Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 18 novembre, petite journée hivernale.
N'est-ce pas?
Un très beau vent ce matin, hein? On vous parle toujours de voyage, de nature, de science. Ce matin, je suis en compagnie de André Étienne.
Oui, bonjour.
Bonjour André, on vous souhaite la bienvenue.
Merci beaucoup.
Vous avez déjà fait de la radio, André?
Non, jamais. C'est mon premier jour, c'est mon baptême.
Vous allez voir, ça va très bien se passer.
Merci,
j'en suis convaincu. De quoi vous allez nous parler ce matin?
Alors, je vais vous parler du double visage des plantes et également de quelques empoisonnements célèbres qui se sont produits à partir de l'utilisation des plantes.
Il y a longtemps.
Ah oui, il y a longtemps, oui, oui. Vous allez voir.
De mon côté, je vous amène faire un tour à Lima, capitale du Pérou, endroit assez intéressant. Et vous avez certainement connu des gens qui ont un animal de compagnie qui est décédé. Comment on présente ça aux enfants, l'animal de compagnie qui meurt?
C'est terrible.
Puis, on est en période de chasse, où on termine la période de chasse. Vous avez en forêt des randonneurs, les chasseurs, qui ne s'entendent pas toujours très bien. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et vous avez certainement vu la planète des singes. Est-ce que vous avez vu la planète des singes?
Il y a longtemps, par exemple.
Ah oui, mais il y a le deuxième qui est sorti maintenant. Alors, est-ce que c'est possible que des singes puissent parler ou est-ce que c'est pure fiction? Et enfin, je vous amènerai sur les traces du Che Guevara, bien sûr, à Santa Clara.
Wow!
Alors, Lima, c'est tiré d'un article de David Riendo dans la presse du 18 octobre. Lorsque vous arrivez à Lima, il est impossible d'ignorer ce qu'on appelle les combis. Les combis, c'est des microbus souvent déglingués qui congestionnent les artères de la capitale et ça constitue le principal moyen de transport des habitants de Lima. En grimper dans l'une de ces caisses, qui sont peintes de toutes les couleurs, ça constitue vraiment une expérience assez dépaysante. Mieux avoir les nerfs solides, car les combis s'arrêtent un peu partout. Et ils se livrent à une chaude lutte pour faire monter le plus de passagers possible. Ils s'en accrochent partout, hein? Alors, le cobrador, ça c'est le pilote, le second, qui annonce les prochains arrêts pour les itinéraires. Et pour s'aider à se repérer, vous avez les principales artères du circuit sont indiquées, sont imprimées sur les côtés du combi. Ah, bien qu'ils n'exercent pas le même attrait sur les visiteurs que les ruines de la Valle Sagrado à Cusco, qui est la plus connue, bien sûr. La capitale compte aussi plusieurs vestiges intramuros et extramuros. Et vous avez le sanctuaire de Pachacamac. J'ai l'impression que c'est tiré d'un livre de Tintin, ça. Il me semble qu'il y avait un Pachacamac dans Tintin. Il faudrait que je le vérifie. Et ça révèle de nombreux bâtiments, des rues à cet endroit qui sont occupées depuis l'époque de la culture Lima. Jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Ah, les visiteurs peuvent notamment se promener autour du Temple du Soleil.
Ah, là, c'est sûr.
Ah oui, qu'on trouve à Cusco aussi, bien sûr. Les Liméniens, c'est le nom des habitants de Lima, les Liméniens, ils raffolent du ceviche. Le ceviche, c'est le mets principalement composé de poissons cuits avec du jus de lime et c'est agrémenté d'oignons rouges, de coriandre, de maïs blanc et de piment fort.
Et même de pastis, savez-vous?
oui, c'est fort possible, oui. Pendant l'almuerzo, qui est le dîner, de 13h à 15h, les clients font la ville devant les cevicherias. Cevicherias. Lima, c'est une ville résolument tournée vers la mer. Le long de la Costa Verde. À toute heure du jour, la promenade est envahie par les joggers, la plage, les surfeurs. Et lorsque le vent se lève, les amateurs de parapente se donnent rendez-vous au Parque del Amor. Quel beau nom, hein? Le Parque del Amor, le parc de l'amour.
Ça fait rêver.
Ah, pour tromper la fraîcheur, excusez-moi, la fraîcheur des soirées liméennes, mais rien de tel qu'un pisco sour. Et il faut observer le serveur mélanger le blanc d'œuf, le jus de lime, le sirop de canne à sucre, la cannelle, avec une généreuse mesure de pisco. Pisco, c'est l'eau de vie locale. Et au deuxième verre, on parle espagnol encore un peu mieux qu'au début.
Mais dites-moi, Michel, Dans ces pays-là, il y a beaucoup de tremblements de terre.
Il y a eu des tremblements de terre importants,
okay.
un peu partout en Amérique du Sud, au Chili, mais particulièrement dans cette région-là. Mais malgré les tremblements de terre, on compte encore des édifices de l'époque coloniale, d'une grande richesse architecturale, et au centre de Lima particulièrement. Alors, la promenade débute sur la monumentale Plaza Mayor. Et ça, Plaza Mayor, on en trouve un peu partout en Amérique
oui.
du Sud. Hein?
Oui, oui.
Là, ça dit la grande place. C'est le siège du pouvoir avec sa cathédrale, son palais archi-épiscopal. Et sur les 12 coups de midi, derrière la grille du palais présidentiel, c'est le changement de la garde. Et avec les costumes d'apparat, les fanfares militaires. Toujours intéressant à voir un peu partout dans le monde.
Oui, c'est vrai.
Et il faut absolument visiter le Monasterio San Francisco et ses catacombes. Une visite aussi au Museo Larco. Ça s'impose.
Et dites-moi, dans ce musée, est-ce que c'est un musée riche en œuvres?
Oui, vous avez l'archéologue péruvien qui s'appelle Rafael Larco, qui a acquis une impressionnante collection de 45 000 pièces d'œuvres d'art, d'objets cérémoniaux, d'offrandes funéraires, qui sont issues, entre autres choses, des cultures paraca et, bien sûr, culture inca. Et l'exposition permanente, est traduite en français, explique l'évolution des courants artistiques, la spiritualité de ces cultures, et ça présente plusieurs pièces d'orfèvrerie d'une grande beauté. La Bajada de Baños. J'aime beaucoup ces noms, Bajada de Baños. C'est une allée piétonne, ou piétonnière, si on préfère, par où les plaisanciers avaient coutume de descendre à la mer. Alors, les amoureux ne manqueront pas de passer près du Puente de los Suspiros.
Oh,
le
oui.
pont des soupirs. Il n'y en a pas seulement à Venise.
Non.
Hein? Et c'est un endroit très fréquenté des tourtereaux le soir venu. Je pense que vous savez que la viande rouge trouve une place de choix sur les tables, la table des Péruviens, des Argentins aussi, bien sûr.
Oui.
Mais ce sont sans doute les anticuchos qui se démarquent du lot. Ça, c'est une brochette de quartier de cœur de bœuf mariné et c'est cuit sur le grill. Ce plat s'accompagne de pommes de terre, d'épis de maïs qu'on trouve toujours en Amérique du Sud, le choclo et de fromage aussi. Et pour faire descendre le tout, on fait signe au serveur de nous servir de la chicha morada. Chicha morada, c'est de la boisson de maïs. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est une boisson de maïs violet.
Violette?
Oui.
OK.
Oui, assez étrange. En quelques mots, la piña. C'est à la culture de la côte péruvienne, ce qu'a été chez nous ici, les boîtes à chansons au Québec. C'est un bar où se perpétue une certaine tradition musicale. Et les Liméniens et la parenté de passage en ville se réunissent autour d'un plat traditionnel, de quelques bières, bien sûr. Et là, vous avez un groupe de musique criolla, donc créole, qui va entonner des airs connus de tous en prenant un pisco sour ou une chicha. Ah, c'était un petit tour rapide de Lima qui nous provenait de David Riendo dans la presse du 18 octobre.
Merci.
Condor Passa, oui. C'est un beau souvenir, ça. Lorsque je suis arrivé à Cusco, avec un train très particulier qui fait des allers-retours parce que c'est très empreinte, on jouait El Condor Passa.
Mm.
On passe à autre chose, complètement. Des enfants et le deuil d'un animal de compagnie.
C'est quelque chose, hein, ça, hein?
Oui.
Vraiment, c'est dramatique. Hein?
Mais pas seulement pour les enfants, d'ailleurs, mais c'est de la façon de l'annoncer aux enfants, surtout.
Pour les parents aussi.
Oui, tout à fait. On s'attache à nos animaux de compagnie. C'est Stéphanie Vadet qui nous en parle dans la presse du 11 octobre. Alors, la perte d'un compagnon à quatre pattes, c'est vraiment une épreuve difficile à traverser. C'est un membre de la famille à part entière, le chien, le chat, va manquer à toute la maisonnée, particulièrement aux enfants qui devront peut-être pour la première fois vivre un deuil. Et comment alors trouver les mots justes? Une maman de trois enfants, 8, 13 et 17 ans, a dû faire face au cancer des os de Ulysse. Ça, c'est un bouvier bernois de la famille qui était à ce moment-là âgé de 8 ans. Les deux filles ont grandi avec lui, mais il faisait vraiment partie de la famille. Il voyait tout ce qu'il souffrait beaucoup. Ils avaient vécu précédemment le décès d'une amie de la plus petite qui avait été emportée par un cancer. Alors, la notion de mort était déjà dans la famille, était présente. C'est en effet très important dans un premier temps de juger à quelle étape de compréhension de la mort l'enfant se situe. L'expérience du deuil d'un animal de compagnie pour un enfant, c'est un moment important dans son éducation à la mort. Et ça, c'est un professeur en études sur la mort à l'UQAM.
Ça va le marquer à vie, en plus.
Oui, c'est tout à fait. Il faut mettre des mots sur cette réalité. Et selon l'âge, la perception de la réalité de la mort et de sa réversibilité n'est pas la même. On estime qu'entre 6 ans et 8 ans, un enfant commence à saisir l'irréversibilité biologique de la mort et que dès 9 ans, la notion de mort comme fin de la vie se fait beaucoup plus claire. Donc auparavant, avant cet âge-là, c'est pas très clair. Alors, les trois enfants ont réagi de manière différente. L'aîné a gardé beaucoup de distance et est resté très en contrôle. L'aîné, je vous le rappelle, avait 13 ans. Et pour la cadette, c'est passé par des dessins, des photos, des messages qu'elle envoyait à ses amis.
Ah oui?
Et la petite dernière, elle de 8 ans, a été la plus touchée émotivement. Et c'est elle qui a posé le plus de questions. Où est Ulysse? Est-ce que le nuage qui est là, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il est allé rejoindre mon ami, par exemple, qui était déjà décédé? Elle avait besoin de garder un contact et de verbaliser ce qu'elle pensait et dire qu'elle pensait au chien. La littérature pour enfants au sujet du deuil peut, à ce stade, s'avérer très utile aux parents pour permettre aux enfants d'apprivoiser la réalité. Mais dans tous les cas, il n'est pas question de mentir. Mentir, c'est vraiment une arme à deux tranchants.
De toute façon, c'est jamais bon de mentir.
Dans toute la vie,
ouais.
De toute façon, c'est ça. Alors, on croit qu'on va éviter de la peine et des souffrances, mais à long terme, ça peut se retourner contre nous et l'enfant.
Absolument.
Les plus jeunes font des liens de cause à effet qu'on ne prévoit pas. Ils vont bâtir tout un monde autour du mensonge. Alors, il vaut mieux bien choisir ses mots et avouer qu'on ne sait pas où est parti l'animal après sa mort. Bien entendu, si vous croyez au paradis, à la réincarnation, vous pouvez l'expliquer dans vos mots et dans les mots que l'enfant pourra comprendre. C'est selon vos croyances, bien sûr. Il faut tenir compte des émotions de chaque enfant et ainsi juger s'il est prêt en lui donnant tout simplement le choix d'assister à l'euthanasie de son compagnon. Il faut le prévenir de ce qui va arriver à l'avance et parler en détail de l'expérience. Offrez-lui le choix et dites-lui bien que c'est le moment où il pourra lui dire au revoir. Et c'est accompagné de la dame de ses deux filles, dont on a parlé précédemment, qu'on a décidé de se rendre chez le vétérinaire pour faire euthanasier Ulysse. Donc, il a été avec ses enfants. Le plus grand n'a pas voulu les accompagner, car il ne voulait pas voir pleurer les filles. Mais les filles ont exprimé le désir d'y aller. Le chien était comme, il faut le dire, le quatrième enfant de la famille. Alors, on avait une espèce d'adieu à lui faire. L'équipe vétérinaire a été exemplaire, on a dit, dans ce cas-ci. Ils ont donné le temps de vivre ce qu'ils avaient à vivre avec Ulysse et ils ont même eu la délicatesse d'envoyer de la facture plus tard. on l'espère quand même, surtout peut-être pas devant les enfants. La directrice des hôpitaux vétérinaires Anima recommande quant à elle aux parents de venir accompagner leurs enfants lors de la visite qui précède la prise de décision de l'euthanasie. J'explique la maladie et le fait qu'elle ne peut être guérie. J'ai à parler avec tous les membres de la famille. Ça donne ensuite du temps à la famille pour prendre une décision.
C'est sûr.
Après le décès de Pitou ou de Minou ou d'autres encore, il ne faut pas éviter le sujet. Il est important pour votre enfant de vivre son deuil et de le partager avec ses proches. Donc, des petits conseils de gens spécialisés pour bien vivre le deuil d'un animal de compagnie. Et c'était Stéphanie Vallet qui nous en parlait dans la presse du 11 octobre.
Savez-vous, Michel, j'ai quelque chose à ajouter peut-être. C'est arrivé dans ma famille, on a perdu un chat. Et le vétérinaire chez qui on était allé pour faire euthanasier le chat, peut-être dans une période d'un mois après, nous a envoyé une petite carte pour rappeler que maintenant notre chat était décédé.
Ah,
c'était
oui.
très gentil et ça a beaucoup touché ma fille. Ça l'a apaisé un petit peu parce que ça durait longtemps.
Ce sont de petits gestes comme dans le décès d'un humain, d'une certaine façon.
Je trouvais que ça avait été très sensible.
Qui aide à faire la transition.
Absolument.
Bien.
Il y a les regards de ceux que l'on croise et ceux que l'on habite. Avant d'avoir eu le temps de voir, j'ai fermé les yeux trop vite. Tous les visages parlent d'eux-mêmes avant qu'on les connaisse. Le mien t'a dit va-t'en. Je ne serai que tristesse. Il y a les sourires de ceux que l'on croise et ceux que l'on habite. Avant d'avoir eu le temps de boire, tu as craché trop vite. Tous les visages parlent d'eux-mêmes avant qu'on les connaisse. Le tien m'a dit va-t'en, cours au loin, je ne serai que tristesse. On s'est brisé la tête et le cœur avec bien trop d'adresse. On a noyé nos yeux dans les pleurs, prétextant notre ivresse. Tous les visages parlent d'eux-mêmes avant qu'ils se connaissent. Les nôtres ont fait semblant jusqu'à la fin, aidés de fausses promesses.
Et bien après cette très belle chanson de Pierre Lapointe, « Tous les visages parlent d'eux-mêmes », je vais vous parler du double visage des plantes. Vous savez que les plantes sont source de nombreux médicaments, mais les plantes peuvent aussi être à l'origine d'intoxications mortelles en cas de surdose ou tout bêtement de confusion. Alors la prudence est de mise. Savez-vous que la pomme cache une arme fatale dans ses pépins ? C'est pas forcément évident, on n'y croit pas, hein. Ces grains noirs, qui sont en apparence inoffensifs, renferment des sucres cyanogènes qui sont métabolisés dans l'organisme et qui peuvent se transformer en un poison très connu qu'on appelle le cyanure.
Ah oui.
Rien de moins que ça.
J'ignorais totalement.
C'est incroyable, hein. En quantité suffisante, celui-ci bloque le processus d'oxygénation des cellules. Il va provoquer la fatigue, une chute de tension, des troubles cardiaques, le coma et, dans certains cas, la mort.
Oh.
Bon, en pratique, c'est vrai que c'est difficile d'atteindre la dose létale puisqu'elle est de 0,5 mg par kilo de masse corporelle et il faudrait un bol entier pour venir à bout d'une personne de 70 kilos. Alors vraiment, il faudrait avoir l'intention de checker quelqu'un avec des pains de pommes. C'est quand même pas tout à fait évident. Par contre, les noyaux d'amande amère des abricots peuvent intoxiquer gravement des enfants. Parce que les amandes amères contenues dans les noyaux d'abricots ou de pêche renferment elles aussi des sucres cyanogènes, donc producteurs de cyanure, mais en concentration beaucoup plus importante. Et des cas d'intoxication sont régulièrement rapportés par les centres antipoison, car pour un adulte, il faut compter entre une vingtaine et une cinquantaine d'amandes pour atteindre une dose dangereuse. Mais vous imaginez bien que pour un enfant qui pèse peut-être 20 kilos, il en faut beaucoup moins.
Oui, c'est ça. C'est là le problème.
Exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'arsenal biochimique développé par les plantes pour se défendre contre des prédateurs ou pour s'adapter à un environnement hostile s'avère également intéressant pour élaborer des médicaments et pour lutter contre des maladies. Mais selon les doses ingérées et la sensibilité des organismes, il peut se révéler dangereux. Et plusieurs milliers d'intoxications par les végétaux sont enregistrées chaque année en France. Pouvez-vous imaginer combien d'intoxications sont répertoriées par an en France?
J'ai aucune espèce d'idée.
C'est assez impressionnant. Imaginez-vous que 6000 cas d'intoxication sont dus à l'ingestion accidentelle de plantes chaque année. Et ceci correspond à 5% des intoxications répertoriées par les centres antipoison, alors que pour les médicaments, c'est 28%.
Ah oui.
C'est quand même très important, oui. N'est-ce pas? Pour donner quelques exemples, il y a un barbecue qui a été très célèbre, qui est un barbecue mortel qui a été causé, tenez-vous bien, par le laurier rose pour les soldats de Napoléon. Le laurier, c'est vraiment une plante étonnante parce qu'il y a plusieurs plantes de laurier qui portent différents noms. Le laurier sauce, le laurier des bois, le laurier cerise, le laurier rose, le laurier thym, le laurier des Alpes. Mais seul le laurier sauce, qui s'appelle aussi le laurier noble, est comestible. Les autres sont tous toxiques.
Et c'est un fruit ou c'est la feuille de...
c'est la feuille qui est toxique, mais je crois bien qu'en ce qui concerne le barbecue en question, c'est qu'ils avaient utilisé la branche de laurier faire leur barbecue.
Ah oui, je comprends.
Et donc, ça s'est passé, donc les soldats de Napoléon en ont été victimes en 1808, et c'est en préparant ce barbecue que les soldats ont été empoisonnés. Mais plus récemment, en 2001, deux Alsaciens se sont intoxiqués avec du vin chaud épicé à la badiane. Parce que pour contrer la pénurie de cette plante chinoise qu'on appelle aussi l'anis étoilé, c'est très joli l'anis étoilé, vous savez.
Oui, je connais.
Vous connaissez?
Oui.
Des vendeurs peu scrupuleux l'avaient mélangé avec sa cousine du Japon, riche en alcaloïdes, toxique pour le système nerveux central. Alors, ce n'est pas très facile pour s'y retrouver entre les bons et les méchants. Par exemple, des familles comme les Amaryllidacées, qui sont les jonquilles et les narcisses, ou les renonculacées, elles renferment surtout des plantes toxiques, mais d'autres accueillent à la fois la carotte, on aime beaucoup ça, le fenouil, mais aussi la grande ciguë.
Ah oh.
Alors tout ça, ça fait partie de la même famille.
La ciguë, ça me dit quelque chose.
Ça vous dit quelque chose, mais ça va vous dire encore plus tout à l'heure. Je peux vous nommer quelques plantes vertes qui sont vraiment à éviter pour les enfants et qu'on retrouve vraiment dans nos appartements très facilement. Elles peuvent se révéler toxiques, celles pour celui qui suce ou mâchonne tout ce qui est à sa portée. En cas d'ingestion, on recommande toujours de rincer la bouche à l'eau et de contacter le centre antipoison le plus proche. Alors, je vous en nomme quelques-uns rapidement. Le Diefenbachia. On en a,
qu'on connaît bien.
C'est très fréquent. Hein?
Oui.
Sa sève contient des cristaux qui sont irritants et qui provoquent un gonflement de la bouche et peuvent entraîner une gêne respiratoire et des difficultés d'églutition. Le ficus, vous connaissez aussi?
Oui.
Alors lui peut entraîner des rougeurs ou des brûlures qui peuvent être observées autour de la bouche. La jacinthe. Comme la plupart des plantes à bulbes, l'ingestion des fleurs et des feuilles peut provoquer des vomissements et des diarrhées. Le poinsettia, on va en avoir avec Noël.
C'est le temps, on y arrive.
Exactement. Sa sève, comme celle des plantes de la même famille, est légèrement irritante. Et le pommier d'amour et le houx. Imaginez-vous que les plantes, les baies du pommier d'amour sont toxiques. Elle provoque des vomissements, des nausées et des diarrhées. C'est un comble, hein, quand même. Hein?
Espèce de contradiction. Hein?
Exactement. Donc voilà, faites attention. Alors, je vais vous parler d'une boisson chasse-poison. Imaginez-vous que le jus de pousse de brocoli a des effets prodigieux pour les fermiers chinois qui habitent dans l'une des régions les plus polluées de la Chine, à savoir Shanghai. Ce breuvage permet d'éliminer en grande quantité des composés toxiques ou cancérigènes qui sont stockés dans leur organisme. Ces composés stimulent la production d'enzymes qui peuvent expulser hors de notre corps les résidus d'émissions polluantes lorsque la plante est mâchée ou consommée sous forme de boisson. Ils stimulent la production d'enzymes qui peuvent expulser hors de notre corps les résidus d'émissions polluantes. Surprenant, hein? Tout le monde n'aime pas les brocolis, mais là, ça vaut le coup vraiment boire en jus. Hein?
Enfin,
on va lutter contre la pollution avec le jus de brocoli.
Vive le brocoli.
Kiosque Magazine.
Bon, chassez croisé. Les chasseurs et les randonneurs sont souvent à couteau tiré. Désaccord de principe, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, c'est tiré d'un article par Mathieu Régnier dans Géoplanaire de septembre-octobre 2014. À chaque automne, il y a un certain monsieur, un randonneur, qui fait un séjour dans un monastère. Bon, se reposer. En novembre dernier, tôt le matin, il emprunte un sentier sur l'immense domaine monacal. Et tout à coup, pan! Sans s'y attendre, il voit détaler un chevreuil ensanglanté à 3 mètres de lui. Il n'a pas eu le réflexe de faire du bruit pour signaler sa présence. Et là, il cherche à percer la brume pour revoir l'animal. Et il tombe nez à nez avec un chasseur. Et il nous dit, je portais une tuque rouge. Et une chance, parce que ça m'a peut-être sauvé la vie.
Mon Dieu!
Quelle famille québécoise, parce qu'il y a beaucoup de chasseurs par ici, quelle famille n'a pas une histoire comme celle-là à raconter? Le chassé-croisé des chasseurs et des randonneurs n'est pas une légende ici. À mesure qu'augmentent les activités en forêt, surtout en région, augmente aussi le risque de rencontrer, de façon inopinée, potentiellement dangereuses. Et pourtant, les chiffres prouve que le risque est absolument minime. Selon le porte-parole du ministère des Forêts et de la Faune et des Parcs, seule la peur injustifiée des randonneurs explique la tension qui perdure entre eux et les chasseurs. Aucun accident entre un chasseur et un non-chasseur n'a été répertorié depuis que nous tenons des statistiques.
Ben, je trouve ça drôlement rassurant, savez-vous?
Oui, tout à fait. Moi aussi.
Parce que moi, en période de chasse, j'ai toujours très peur de me promener dans la nature.
Chaque année, pour 100 000 permis de chasse délivrés, on compte environ 0,9 accidents. C'est très, très peu. Et ces accidents-là surviennent entre chasseurs.
Ah oui?
Oui, étonnamment. À la Sûreté du Québec, on précise que les plaintes associées à la pratique de la chasse ne sont pas répertoriées comme des incidents de chasse, mais sont plutôt assimilées à des voies de fait. Les chasseurs qui en viennent aux mains, qui en viennent au cou à certains moments.
Oh non.
Étonnant, hein?
Incroyable.
Une randonneuse et une chasseuse qui travaillent en environnement nous dit « Plutôt que de tension, je parlerais davantage d'intolérance ou de méconnaissance. » Car au fond, les tensions observées entre chasseurs et randonneurs relèvent bien souvent d'un manque de civisme, plutôt que d'un conflit irréconciliable. Et il semble que ces tensions augmentent à mesure qu'on s'éloigne des zones habitées. Ben, ça se comprend. Les comportements inappropriés de randonneurs sur une zone de chasse, arrogance des uns ou des autres, égocentrisme. Et si le problème n'était dans le fond qu'une frustration réciproque fondée sur le manque de dialogue et la méconnaissance de l'autre? À la Fédération québécoise de la marche, on rappelle aux membres qu'en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, personne ne peut faire obstacle à un chasseur.
Ah oui?
Oui. Étonnant, hein? Et le président du Sentier national au Québec suggère, en toute logique, d'éviter les endroits fréquentés par les chasseurs et d'en profiter pour randonner ailleurs. Ce que vous me disiez tout à l'heure. Pour ce vétéran de la marche, la prudence est toujours de mise et rien ne vaut un bonjour cordial lorsqu'on croise un chasseur. À l'autant qu'il n'est pas trop agressif. Le directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs a vu la chasse évoluer dans la bonne direction avec plus de respect mutuel. Les tensions opposent surtout les chasseurs entre eux, comme je mentionnais tout à l'heure. Et c'est pour cette raison qu'a été mise sur pied la campagne « Partageons la forêt », dont l'objectif est de sensibiliser les chasseurs à l'éthique du partage du territoire. Sa plateforme web est bien conçue, mais concerne presque exclusivement les chasseurs. On doit aller plus loin pour s'adresser à la population en général. Depuis 1972, je ne sais pas si vous le saviez, les chasseurs sont tenus de suivre une formation pour obtenir un permis de chasse.
Ah oui?
Oui. Moi, ça m'étonne un peu. Je ne pensais pas que c'était 1972. Mais depuis 1994, en vertu de la loi sur les armes à feu, ils doivent suivre un second cours et celui-ci est supervisé par la Gendarmerie royale du Canada. Alors, ça devient sérieux.
Oui, très sérieux.
Les clients des pourvoiries, eux, l'ont compris. Une pourvoirie n'est plus seulement un terrain de chasse et de pêche. On nous dit, nous sommes des établissements hôteliers en milieu forestier. Et nombreux sont donc les randonneurs qui s'y installent en étant déjà sensibilisés aux bons usages. Et cela explique que la FPQ, plutôt, qui est la Fédération des pourvoiries du Québec, n'observe pas de tension dans les pourvoiries comme telles. Alors, pour consolider cette bonne entente entre usagers, la Fédération a rencontré la Fédération de la marche en mars dernier afin d'intégrer leurs critères de balisage au sentier. Au Québec, ce n'est ni l'espace, on le sait, ni le territoire forestier qui manque. Alors, des bonnes pratiques de cohabitation existent. Il suffit de sensibiliser les uns comme les autres au moyen de les appliquer. D'ailleurs, on entend dire ici et là qu'il est grand temps d'organiser une vaste campagne de conscientisation et de concertation. Mais en attendant, les randonneurs de l'automne peuvent commencer par s'informer, planifier leurs activités là où ils seront sûrs de ne pas être dérangés. Ben sinon, ben, portez une tuque rouge, hein? ça peut toujours vous protéger. Ah, c'était tiré de Géo plein air septembre-octobre 2014 par Mathieu Régnier. Thank you.
du poison à toutes les sauces. Vous savez bien que de tout temps, les plantes ont été utilisées pour éliminer un prétendant ou un ennemi redouté.
Il y a longtemps.
Il y a longtemps, oui. Je vais vous présenter 4 empoisonnements célèbres. Alors donc, ça s'étale dans le temps, puisque le premier dont je vais parler, c'est celui de Socrate.
Ah oui.
4e siècle avant Jésus-Christ, condamné à boire la ciguë.
Oui.
Alors, il y a une phrase. « Criton, nous devons un coq à Esculape. N'oublie pas d'acquitter ce vœu. » Ce sont les derniers mots de Socrate avant que le poison ne paralyse son cœur au printemps 399 avant Jésus-Christ. 30 minutes plus tôt, le philosophe a bu le poison d'État. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, le poison d'État.
Oui, c'est étonnant, poison
d'État. C'est incroyable, voilà. Ouais. Et le poison d'État, il était composé de grandes ciguës. C'est une plante extrêmement vénéneuse de la même famille que le persil et le fenouil.
Oui.
Le saviez-vous?
Ben non, mais je pense que vous l'avez mentionné.
Ben c'est ça.
C'est incroyable.
Donc, l'homme a été condamné à mort pour impiété et à 70 ans, je dois dire que j'ignorais complètement que c'était à 70 ans que Socrate avait bu le fameux poison, il accepte son destin. Sur les conseils de l'esclave qui lui a servi la coupe empoisonnée, il fait quelques pas dans sa cellule. Les premiers effets tardent pas à se faire sentir, son pouls ralentit, sa vision se voile, ses jambes s'engourdissent et, aidé par ses amis qui assistent à son exécution, Socrate s'allonge et se couvre de son manteau. Un à un, chacun de ses muscles se paralyse et sont figés par ce qu'on appelle la cicutine, qui est un alcaloïde très puissant contenu dans la ciguë, et Platon décrit sa mort comme une mort lente et peu douloureuse. Il finit par mourir d'étouffement. On ne connaît pas exactement la composition exacte du poison d'État, mais il aurait été mis au point par un herboriste du nom de Thrasyas de Mantinée qui utilisait la sève de ciguë, de pavot et d'autres éléments. Et il avait découvert une substance tellement puissante qu'en quantité de 60 grains, soit à peu près 4 grammes, le résultat était irrémédiable. La présence d'opium aux effets psychoactifs pourrait expliquer l'incongruité des derniers mots prononcés par Socrate, que je vous ai lu au début.
Oui.
Criton, nous devons un coq à Esculape. N'oublie pas d'acquitter ce vœu. C'est quand même assez incroyable.
Oui.
Mais quand même, je dois dire que 70 ans, c'était quelque chose. Un autre cas, c'est une overdose de laurier rose pour Britannicus. Donc, c'est un siècle après Jésus-Christ. Il voulait être seul sur le trône. L'empereur romain Néron imagine un plan diabolique pour éliminer son rival. Son rival étant son demi-frère Britannicus. Alors, il convoque une empoisonneuse qui est très réputée à l'époque pour qu'elle lui concocte un breuvage foudroyant. Il aurait utilisé du cyanure obtenu à partir de décoction de laurier rose. Et dans le plan élaboré par Néron, Britannicus doit mourir lors d'un banquet. Un problème, c'est qu'à l'époque, comme la mort par empoisonnement était très courante, les plats et les boissons sont d'abord goûtés par un esclave de confiance.
Ah oui.
Voilà.
C'est juste.
Donc, il fallait éviter. Comment faire pour éviter cette étape? Alors, les Romains avaient pour coutume de boire de grands verres d'eau chaude parfumée pour faciliter la digestion. Vous savez qu'ils ingurgitaient énormément d'aliments. Et les esclaves devaient toujours servir le breuvage à bonne température, ni trop froid, donc, ni trop chaud, selon les préférences de chaque invité. Et pendant le banquet, un serviteur est donc chargé d'apporter de l'eau bouillante à Britannicus, qui se brûle les lèvres et demande en urgence de l'eau froide. L'esclave revient donc avec une cruche d'eau empoisonnée. Dans l'empressement, personne n'a pensé à la faire goûter. Appelle Britannicus a-t-il bu, qu'il est pris de convulsions, et Néron invoque une crise d'épilepsie. Mais Britannicus est emmené à l'écart et meurt dans la nuit. Un autre cas qui est assez surprenant, en tout cas j'en avais jamais entendu parler, c'est la salade de datura. Vous savez cette plante, ce que c'est le datura?
Non, pas du
tout. C'est cette plante qui a une corolle très longue.
Ah.
On en voit beaucoup dans nos jardins. Hein. Donc ça, ça se passe dans l'État de Virginie en 1676, sur le camp militaire de la colonie britannique. Là, on voit un homme, des hommes à quatre pattes, un homme qui souffle sur une plume pour la faire voler, un homme complètement nu. On parle quand même d'un camp militaire, hein? Il court en faisant d'horribles grimaces, un troisième qui embrasse ses compagnons de caserne en ricanant. Tous ont les pupilles dilatées et se plaignent d'avoir la bouche très sèche. Ils viennent d'être empoisonnés au datura. C'est une plante surnommée l'herbe du diable, l'endormeuse ou la trompette de la mort. Et les soldats britanniques envoyés en Amérique du Nord pour réprimer une révolte auraient mangé des feuilles de datura. La plante est riche en alcanoïdes tropaniques qui provoquent de puissants effets hallucinogènes. Et du coup, un coup de folie généralisé atteint l'armée. Et c'est un historien qui a décrit cette histoire et qui dit on les maintenait donc enfermés de crainte que leur folie ne les conduise à s'automutiler. Et au bout de 11 jours, après d'innombrables enfantillages, on les a décrits plus tôt, ils retrouvent leur état normal, ne se souvenant absolument de rien. C'est le datura qui était responsable de ce délire de caserne.
Et ça, c'est par hasard.
Ça, c'est un petit peu... c'était par hasard que ça a été découvert, ah oui. Parce que les soldats avaient des comportements complètement inhabituels, délirants, comme ils disaient. Ils soufflent pour faire voler une plume, qui court nu en faisant des grimaces, et ils ricanent en courant dans la caserne.
Alors, c'était le thème de la planète des singes, le planète des singes 2, parce que le 30 juillet est sorti le deuxième volet de la nouvelle saga cinématographique, la planète des singes, qui est inspirée du roman de Pierre Boulle. Et le héros, ceux qui l'ont vu, vous avez vu le premier probablement aussi, ça avait fait fureur cette chose-là. Le héros, c'est César, hein? C'est un chimpanzé remarquablement intelligent et qui est doué de parole. Des capacités que sa mère, qui était un singe de laboratoire, lui aurait transmis génétiquement après avoir reçu un virus particulier. Est-ce que des singes qui parlent, est-ce que c'est pure fiction? Alors, leur intelligence ne fait pas de doute. Les singes se sont révélés très doués dans l'apprentissage de la langue des signes. Comme on nous dit le célèbre gorille femelle Coco, qui maîtrise plus de 1000 signes depuis les années 1970.
1000 signes, oui, c'est important.
C'est étonnant quand même. Hein? Ben, certaines espèces, telles les mônes de Campbell, que je ne connais pas, et les muriquis, possèdent même une forme complexe de communication vocale. Mais les singes seraient-ils pour autant capables de parler ou est-ce que c'est pure fiction? Dans les années 1950, des scientifiques américains ont tenté l'expérience avec Vicky, un chimpanzé, et lui faire répéter des mots comme un perroquet. Alors, au bout de plusieurs années, c'est à peine s'ils ont obtenu de vagues « papa »,« mama » ou des sons qui sont faciles à reproduire, autrement dit. Ouais. Et il faut dire que pour accéder au langage articulé, comme les humains, les singes devraient surmonter un handicap de taille qui est lié à leur anatomie. Leur appareil vocal n'est pas constitué de la même manière que le nôtre. Ils n'ont pas les mêmes configurations musculaires et les mêmes connexions nerveuses. Donc, le contrôle des vocalisations est donc assez différent. Le larynx, non plus, n'est pas positionné de la même manière que chez l'humain. Il est plus haut et la cavité pharyngale est plus réduite. De plus, les primates ont un visage allongé et la cavité buccale est plus longue et plus plate, ce qui empêche les mouvements qui permettent d'articuler la plupart des consonnes et des voyelles.
Ah oui.
Donc, c'est de la configuration vraiment anatomique. Biologique, anatomique. Autre différence, leur corde vocale semble plus rigide et le contrôle de la respiration dans les vocalisations diffère par rapport à l'homme. Ah, c'est pourquoi les sons produits par la plupart des espèces de primates sont très instables. Et ils se résument souvent à des cris ou à des grognements spontanés. Certes, leur anatomie constitue un frein pour moduler des sons, mais s'ils avaient des capacités cognitives et cérébrales, ils y arriveraient. Et ça, c'est un primatologue du laboratoire de psychologie cognitive à Marseille qui nous le dit. Le principal obstacle, c'est qu'ils n'ont pas le bon câblage neuronal, les neurones, et musculaire aussi, pour contrôler la parole indépendamment de leurs émotions. En effet, plusieurs études ont montré que les cris émis par les singes sont associés principalement à des zones cérébrales où siègent les émotions, et non aux aires du langage qui sont situées dans l'hémisphère gauche. Malgré cela, des chercheurs américains ont observé en 2007, pour la première fois, des sons intentionnels de la part des chimpanzés en captivité. Pour attirer l'attention d'un être humain et obtenir de la nourriture, certains ont poussé une sorte de cri grave et prolongé en utilisant leur corde vocale, qui pourrait ressembler un peu à César lorsqu'il disait non. Mais c'est quand même, c'est quand même un peu poussé. Et plus étonnant encore, cependant, et ça c'est intéressant, le son était accompagné du geste de pointage, de pointer. Exactement lorsque, comme nous parlons avec les mains, de quoi alimenter les plus grands fantasmes. Mais si ces quelques expériences anciennes ou récentes peuvent laisser entrevoir les prémices d'un langage articulé et intentionnel, les singes ne parleront probablement jamais.
Bon.
Et la démonstration est faite compte tenu de leur anatomie qui est très
différente. Qui les empêche d'être capables de parler.
On avait vu au préalable, j'avais déjà parlé d'animaux, des corbeaux, des corvidés, qui arrivent à prononcer des mots, plusieurs, qui ont un vocabulaire assez étendu, un peu de la même manière que des perroquets. Mais il semblerait que pour les singes, il semblerait que c'est très différent.
Difficile.
Alors, c'était tiré de... J'en ferai part un peu plus tard.
Esta samba con redoble libertario mataron al guerrillero Che comandante Guevara
selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino.
Alors je vous parle du quatrième cas d'empoisonnement assez célèbre et qui date du XXe siècle. Au XXe siècle, on empoisonne encore les gens. C'est le coup du parapluie au riz. Il s'agit d'un journaliste bulgare. On est en pleine guerre froide, en septembre 1978. Et ce journaliste s'appelle Georgi Markov. Il vit en Angleterre depuis 9 ans. Et ce jour-là, il est bousculé par un homme qui lui percute la jambe avec son parapluie. L'homme bafouille des excuses, s'engouffre dans un taxi, se sauve. Et Markov ressent alors une vive douleur dans la cuisse. La suite, un enfer. Sa jambe double de volume, il est pris de très forte fièvre. En 24 heures, il perd quasiment l'usage de la parole. Et ce monsieur Markov avait été menacé de mort à plusieurs reprises par les services secrets bulgares. Il comprend qu'il a été empoisonné. Alors tous les symptômes, sa tension chute, ses reins se bloquent, il vomit du sang. Et au bout de 3 jours, un œdème pulmonaire se forme, l'empêche de respirer. Finalement, son cœur lâche. Le 11 septembre. L'autopsie révèle qu'une minuscule bille de rouillement de montre s'était logée dans sa cuisse. Celle-ci était percée de 2 trous pour y introduire une quantité infime de poison. Imaginez, 450 microgrammes de la ricine tirée de la graine de ricin. Celle-ci perturbe la production de protéines et provoque la mort cellulaire, entraînant des hémorragies puis la mort des organes. Et savez-vous, pour tirer sur Markov, le tireur a utilisé un parapluie. Celui-ci dissimulait un pistolet à air comprimé activé par une gâchette sur la poignée et la technique est restée célèbre sous le nom de parapluie bulgare. Oh. Donc, un coup de parapluie au ricin au XXe siècle.
Alors, Alors, je vous avais annoncé au début de sur les traces du Che que je vous amènerai voir le Che à Santa Clara. Bon, pour des raisons de temps, ben, ça vous permettra de nous écouter la semaine prochaine, parce qu'on commencera avec le Che la semaine prochaine. Or, je crois que ceci met un terme à notre émission. Merci, André, pour cette première.
Merci de m'avoir accueilli.
Très bien passé. Et on remercie à la mise en onde aux choix musicaux très pertinents, Jean-Sébastien Laliberté. On le remercie pour son sourire aussi qui nous accompagne continuellement. Notre site, hein, canalm.org, ne manquez pas, reprise à 13h et à 21h. On vous souhaite une très bonne journée.
Bonne journée.